en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est devenu une tradition. Chaque année, la capitale économique de la Côte d'Ivoire se gondole à l'occasion du festival Abidjan, capitale du rire, organisé par Gondwana City Productions, autrement dit par quelqu'un que nous connaissons bien sur RFI, Maman. Il est avec nous aujourd'hui en compagnie de quelques-uns des artistes qui ont fait un triomphe hier soir lors du gala d'ouverture du festival. C'était à l'Institut Français et ça ressemblait à un duel de bons mots et d'éclats de rire, de la scène à la salle et de la salle à la scène. Avec nous, aux côtés de Maman, donc pour le meilleur et pour le rire, son complice français, Jérémy Ferrari, l'humoriste ivoirien Joël et le duo qui monte en ce moment en Côte d'Ivoire, les Zinzins de l'art, heureux lauréat du prix RFI Talent du Rire qui sera remis ici samedi soir. VMDN est au Palais de la Culture à Abidjan où vous nous écoutez sur 97.6 à 17h10 et 23h10. Merci d'écouter et de rire avec nous et vous m'en direz des nouvelles.
Bon, c'est pas très très compliqué, d'accord ?
Oui.
On va aller à Kumasi pour bloquer le boulevard Giscard d'Estaing. Quand Macron, il va voir que ça se lance en Afrique, il va péter un câble.
Mais cinq personnes.
Mais non, on va pas bloquer le boulevard à 5, évidemment. Là, j'en prends 4-5 comme ça, je les forme pour que les autres le suivent, c'est tout. C'est pas. Bon, alors, le slogan. Macron, t'es foutu, le peuple est dans la rue. Macron, t'es foutu, le peuple est dans la rue. Il y a des questions ?
Oui, mais j'ai une question, s'il vous plaît. On dit on est dans la rue. Okay. Là, on serait dans le boulevard. Pourquoi on ne dit pas qu'on est dans le boulevard ?
Okay, y a une autre question ?
Oui, voilà, j'ai une autre question. Bon, pour la couleur des gilets, là, on ne peut pas changer de couleur. Est-ce qu'on ne peut pas trouver le rouge ou bien le, je sais pas, noir ou blanc ?
Quand l'humour rebondit avec bonheur sur l'actualité française, c'était donc hier soir à l'Institut Français ici à Abidjan. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Jérémy Ferrari, Maman, Joël, les Zinzins. C'est avec vous, hein, Maman, qu'on va commencer puisque, comme je le disais, les auditeurs de RFI vous connaissent bien. Vous nous faites vivre au quotidien les tribulations de la très très démocratique République du Gondwana. Vous êtes humoriste, producteur, vous êtes la cheville ouvrière de ce festival. On en est donc à la quatrième édition. Revenons un tout petit peu en arrière. Comment est-ce qu'il est né, ce rendez-vous de l'humour ?
Il est né, c'est cohérent, logique, sans même se poser de questions. Un festival, c'est comme si on demande à un boulanger pourquoi vous avez ouvert une boulangerie. En fait, c'est l'endroit idéal pour nous, pour nous exprimer. Un humoriste a son boulot, son bureau. C'est la scène. Et en Côte d'Ivoire, et un peu partout, c'est le cas dans toute l'Afrique francophone, il y a un manque, il n'y a pas de salle. En France, il y a des salles partout, des cabarets où les humoristes peuvent jouer tous les soirs. On veut voir un spectacle comique à Paris, il y en a 300, 400 chaque soir. Ici, il n'y en a pas. Donc faut qu'on crée nous-mêmes nos bureaux, nos endroits où jouer. Et le festival, c'est un rendez-vous annuel où tous les humoristes ivoiriens et africains, parce qu'on a cette chance d'être comme RFI, d'être sur toute l'Afrique. Et Abidjan, capitale du rire, c'est Abidjan, capitale de l'Afrique.
Alors en tout cas, hier soir, vous avez très clairement affiché l'ambition du festival.
Oui, Abidjan, capitale du rire, c'est mandat illimité, mon ami. Oui, d'ailleurs, j'ai pensé à changer le nom du festival. L'année prochaine, je vais l'appeler Festival Paul Biya.
Bah oui, comme ça, c'est clair, tu vois. Comme ça, tu sauras que même dans 35 ans, on sera toujours là. Tu vois.
Alors, on est bien d'accord, Maman. Hein. Tout ce que les spectateurs verront d'ici la fin du festival, ce sont des sketchs, des gags, des créations, des spectacles originaux.
Originaux, vus nulle part. C'est ce qu'on s'est dit depuis la création de ce festival. Ça ne sera pas comme dans certains festivals où c'est juste des plateaux, où les artistes viennent refaire des sketchs qu'ils ont fait ailleurs. On les écrit avant, on les répète, on les joue. C'est de la création éphémère.
Mais donc, c'est un sacré risque, ça, quand même.
Oui,
parce que vous ne savez pas comment le public va réagir.
Ben, l'humour, c'est ça. Hein, l'humour, même après 30 ans de carrière, un humoriste, avant de monter sur scène, il n'est pas rassuré. On a toujours peur parce que la réaction est directe. C'est comme le football. Un match de foot, on peut jamais savoir à l'avance combien de buts on va marquer, qui va gagner. Bon, sauf quand il y a de la corruption derrière, quoi.
Mais oui. En humour, ça arrive, c'est difficile. Vraiment.
On peut pas. En humour, on peut pas corrompre un public pour dire riez.
Il y a pas des petites ficelles quand même, Jérémy Ferrari. Des petites ficelles que vous pouvez utiliser pour être absolument certain de ne pas faire un bide.
Oui, bah, y a ce qu'on appelle parfois, on appelle ça par exemple des vannes tiroirs ou des ficelles, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un nom, il y a des ficelles. Pour des vannes, par exemple, si vous vannez quelqu'un du public, vous avez énormément de vannes que tout le monde connaît, ce qu'on appelle un peu des vannes de cabaret, c'est-à-dire tu peux toujours aller chercher un rire un peu putassier, un peu facile.
Oui. C'est pas. Mais quand on est en perdition, ça peut être utile.
Oui, mais le problème c'est que si tu sauves ta perdition par de la facilité, sur le long terme, c'est pas très optimiste. Donc effectivement, tu peux toujours sauver un peu ton truc, mais tu rattraperas pas 3 minutes de sketch avec une vanne sur la coupe de cheveux d'une nana du premier rang. Ça rattrapera pas ton sketch, mais tu peux utiliser quelques facilités.
Comment est-ce que vous avez été embarqué dans cette aventure d'Abidjan, capitale du rire, Jérémy Ferrari?
Alors en fait, avec ma mère, on avait un ami en commun, et puis ça faisait un petit moment que moi j'entendais parler de ma mère, et puis ma mère entendait parler de moi, et puis quand je me suis disputé avec le premier ministre. L'ancien premier ministre Manuel Valls,
espagnol,
qui a été premier ministre. Les gens l'oublient, mais il a été premier ministre. Et à propos du Gabon, en fait, il y a eu Maman a rien entendu parler de moi. Elle se disait, mais qui est ce blanc qui parle du Gabon comme ça, qui est en train de se prendre la tête avec son premier ministre. Et puis du coup, il a dit, ce serait quand même vraiment bien qu'on se rencontre. Alors on s'est rencontrés. Et puis il m'a invité à venir ici pour co-présenter le festival.
La première édition.
La deuxième édition. Ouais. Et puis on a d'un commun accord avec Maman, on s'est dit on change pas mon humour, on n'essaie pas d'adoucir, on n'essaie pas. Bon, de toute façon j'aurais pas réussi,
oui.
Mais on s'est dit vraiment on bouge rien. Par contre il m'a énormément aidé à adapter ce que je pouvais dire, même s'il n'y avait pas.
Mais adapté pour la scène africaine?
Alors adapté par rapport aux références que peut avoir le public, adapté par rapport aux sensibilités. Ce que je veux dire, sensibilité, c'est pas éviter les sujets difficiles, c'est même plutôt l'inverse, parce que ce dont je me suis aperçu, c'est que certains sujets qu'on pouvait considérer comme sensibles en France ne le sont pas ici.
Par exemple.
Et inversement. Donc, nous, pour le coup, c'était pas essayer d'éviter les sujets sensibles, c'était de les chercher. Parce que, moi, il y avait des choses qui me semblaient hyper importantes à dire. Et puis, ils me disaient, ah ouais, mais non, tu sais, ici, c'est pas une priorité, ça. Ça, c'est ce que les Occidentaux pensent être une priorité pour les Africains, mais chez nous, on pense pas à ça directement.
Mais alors, par exemple.
Ah, là, exemple, là, un exemple, il y a 2 ans, moi je ne l'ai pas, mais je te souviens. Oui,
exemple,
le CFA,
CFA, quand on est en France, on pense que le CFA fait un débat et tout, mais en Afrique, non. Les gens en Afrique, dans la rue, ils veulent juste plus de CFA pour vivre. C'est pas un débat pour nous, quoi. Au contraire, c'est même une chance. On peut passer d'Abidjan à Niamey, à Cotonou, Lomé, avec la même monnaie. On veut même qu'il se répande un peu plus, quoi.
Mais est-ce qu'on peut passer d'une ville à l'autre avec le même humour?
Non.
Autrement dit, est-ce qu'il y a un humour africain ou des humours africains selon les pays et peut-être même selon les régions?
Ben déjà, on a cette chance d'avoir cette langue en commun. Et moi, je le prouve tous les matins en m'adressant aux auditeurs de RFI qu'on peut rire du Gondwana, de Cotonou à Dakar jusqu'à Bangui. Maintenant, il y a des spécificités comme entre Marseille et Lyon, mais il y a une chose qui est claire, et c'est dans le nom de ce festival, Abidjan Capitale du Rire. Le langage, le parler ivoirien, l'humour ivoirien a un peu contaminé tout le reste de l'Afrique, mais contaminé dans le bon sens du terme.
Alors Joël, c'est quoi l'humour ivoirien? Quelles sont ses caractéristiques?
L'humour ivoirien, c'est un esprit, c'est un peu difficile de dire, c'est le naturel dans le parler, c'est surtout l'autodérision. L'humour l'ivoirien même, on est voilà, ça c'est notre ça c'est nous, c'est notre identité, oui. Voilà. L'autodérision. Aujourd'hui, on rit de tout en Côte d'Ivoire, mais pas de tout aussi. Voilà.
Et puis, c'est grâce à ça qu'on oublie qu'il y a 7 ans, il y avait des cadavres dans les rues d'Abidjan. Et les humoristes se sont emparés de ça, de la crise, des morts, immédiatement.
Voilà.
C'est la résilience ivoirienne.
C'est-à-dire qu'il y a une forme d'humour thérapeutique.
On a perdu le bulldozer, on en a ri.
Oui. Voilà. Oui,
on a perdu.
On a perdu un ami samedi dernier.
Voilà.
Et la première réaction des gens, c'était de faire des blagues sur lui.
Voilà. Parce qu'il était d'une mobilité réduite.
Oui.
Donc, bon, s'il avait perdu un peu de kilos, on n'aurait pas parlé de son décès. Voilà, donc l'autodérision, ça c'est bon.
Et vous lui avez rendu hommage hier à la fin du gala d'ouverture.
C'était un peu difficile parce qu'on cherchait la personne qui lui était proche pour soulever le corps. Mais bon, enfin, on a finalement trouvé.
Quand l'humour africain rencontre l'humour français. Abidjan, capitale du rire, 4e édition sur RFI.
4e édition dont le gala d'ouverture s'est donc déroulé ce jeudi soir à l'Institut français d'Abidjan. C'est la première fois que le festival investit ce lieu. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité, Maman, vous produire avec vos artistes sur cette scène-là?
Sur l'Institut français, au début, depuis les trois premières éditions, c'était volontaire. Trècheville, pour ceux qui connaissent Abidjan, c'est vraiment, on y est là aujourd'hui, c'est le palais de la culture, mais c'est un quartier populaire. Et donc, dès le départ, je voulais ancrer ce festival pour le populaire, pas que ça soit quelque chose d'élitiste, parce que quand on dit Maman, les gens voient RFI, Canal+, et donc c'est un peu élitiste, et je ne voulais pas m'enfermer là-dedans.
RFI est une radio populaire quand même.
Oui, c'est populaire, mais dans l'esprit des gens, faut bien parler français. C'est pour les francophones, pour ceux qui ont été à l'école, ce qui est pas vrai. RFI se répand, est répandu partout en Afrique, mais je ne voulais pas m'enfermer, dire voilà, c'est de l'humour pour les gens du plateau, pour les gens de Cocody, pour une minorité. Donc c'est avec Gou, Digbe, Joël, les Zinzins et tous, c'est l'humour populaire pour tout le monde, quoi. Et pendant les trois premières éditions, on a eu ça. On s'est dit bon, faut qu'on aille à l'Institut français, parce que c'est ce que j'expliquais dans mon introduction hier, parce qu'il y a des gens qui viennent pas ici à Trècheville parce qu'ils ont peur, et vice versa. C'est comme à Paris, il y a des rives gauches, rives droites.
Faut pas exclure non plus les riches.
Voilà, faut pas exclure les riches.
Oui, faut pas exclure les riches effectivement. Mais est-ce que ça veut dire que ces deux types de spectateurs là sont différents? Est-ce que ça veut dire qu'on ne vanne pas avec eux de la même façon ou pas du tout? Parce que faut sortir des clichés, quoi.
Non, on vend tout le monde de la même manière. Seulement, ils sont pas pareils parce que, ben déjà, l'argent, c'est ce qui parle à tout le monde. Ouais. Il y a les VIP, les VVIP et les pauvres.
Alors, les spectateurs, hier soir, ont pu assister à une rencontre entre l'humour français et l'humour africain. Ils sont cousins, les zinzins, l'humour français et l'humour africain. Ils sont cousins, ils sont frères ou ils sont trop différents pour être de la même famille?
On peut dire que c'est à peu près, bon, c'est le même type d'humour, hein, surtout l'universalité des thèmes, hein. On sait qu'en France, les femmes sont les mêmes comportements, elles s'accaparent de la télécommande, la douche, on n'a pas droit, c'est elle qui dit le, donc, ce sont des trucs comme ça, c'est universel, c'est la même chose.
Oui, les codes sont les mêmes, ouais, Jérémy Ferrari.
Je crois, il n'y a pas de code, en fait, l'humour, c'est pour ça que c'est très compliqué pour nous de répondre à ce type de questions, parce qu'il n'y a pas de règle en humour, parce que le principe de l'humour c'est la surprise, donc il n'y a aucune règle. Il n'y a pas un type d'humour, il n'y a qu'une personne qui pratique l'humour, et chaque humoriste est différent et pratique son humour. Vous avez des humoristes français qui vont faire, je sais pas, des jeux de mots, donc qui vont être très pointus sur la langue française et la manière dont elle est parlée en France, parce qu'il y a plusieurs langues françaises, la langue française en Suisse, en Belgique, en Afrique, vous avez la langue française au Canada, etc. Alors un mec qui fait que des jeux de mots sur la langue française, évidemment, ça va être compliqué pour lui de s'expatrier, alors qu'il parle la même langue. Et puis d'autres humoristes qui vont parler d'une spécificité ou qui va faire des jeux de mots, etc. Ça va être compliqué. En revanche, les thèmes utilisés par les humoristes sont les mêmes partout dans le monde. C'est toujours la guerre, le sexe, les femmes ou les hommes, ou les hommes-femmes, l'exclusion, le racisme, les problèmes d'argent, etc. Donc après, normalement, si un humoriste qui est normalement avant tout un créateur, peut s'adapter et peut même compléter parfois. Je sais qu'on se complète. Par exemple, quand on fait les choses avec Maman, c'est intéressant parce qu'on est deux humoristes assez engagés.
Oui.
Et du coup, moi, je représente un prisme et lui, il représente un prisme. Ce qui n'est pas la réalité, c'est symbolique, mais dans la tête des gens, Maman représente une certaine catégorie de personnes et moi une autre.
Est-ce que ça veut dire que vous vous nourrissez,
oui,
l'un l'autre?
C'est qu'en fait, on se sert de ce qu'on peut éventuellement représenter naturellement chez les gens, pour pouvoir avoir une vision à 360 degrés. Parce que c'est... On peut toujours écrire un sketch où tu changes de point de vue toutes les deux minutes, mais je veux dire, si on respecte une dramaturgie classique, là, ça nous permet d'évoquer deux points de vue différents, juste en se servant de nos différences.
Alors, c'est vous, hein, le chef d'orchestre de ce spectacle, Jérémy Ferrari, c'est vous qui avez mis en scène, hein.
On fait quand même toujours les choses avec Maman.
Oui.
Parce que justement.
D'ailleurs, vous en jouez d'ailleurs, hein, sur scène. Il y a une petite rivalité jouée évidemment qui s'installe.
Et comme de la même manière que quand on fait le festival en France, le Sans Visa en France, c'est Maman qui est aux manettes et je suis là si jamais il a besoin. Donc on essaye toujours quand même de rester en binôme sur le choix des mises en scène, des artistes, des textes, etc. On relit tout tous les deux. Enfin, on travaille vraiment. à deux sur tous les trucs parce que les gens aiment beaucoup ça.
Mais il faut
ça.
Bien un chef quand même qui tranche.
Non, il faut pas toujours un chef. On n'est pas toujours obligé d'avoir un chef.
Bon, Joël, comment est-ce que vous avez travaillé là tous ensemble? Je ne sais pas si vous connaissiez l'ensemble des artistes qui ont participé au spectacle.
Capital du Rire.
Oui. Parce qu'il fallait que la mayonnaise prenne.
Oui. Forcément, il faut que la mayonnaise prenne parce que nous, on a, comme le disait Jérémy, chacun a sa façon de faire son humour. Donc, quand on se retrouve avec Maman qui nous dit, bon voilà, Joël, je sais que tu as cet humour, Jérémy va mettre en scène. Donc, en fonction, ça dépend des sensibilités. Donc, à telle partie, tu interviens comme ça, à telle partie, tu interviens comme ça. Dis plutôt ça, ne dis pas ça. Voilà, donc la collaboration, elle est là. Et puis on a Maman, quoi. N'eût été son ingéniosité humoristique, on ne serait pas là.
En Côte d'Ivoire.
Non, là, j'ai parlé.
C'est pas mal. Je pense que vous serez repris dans le prochain spectacle. Oui, là, on sait jamais. Voilà. En Côte d'Ivoire, on peut vraiment rire de tout, Joël.
On peut rire de tout quand on sait rire de tout.
Ah, alors voilà. Comment on apprend à savoir rire de tout alors?
Tu vas savoir. Ici, il y a plein de sujets, mais en général, il y a des sujets qui fâchent qu'on ne... Voilà. Et puis, on a ce grand sens d'autodérision là qui fait que on arrive quand même à rire de tout. Voilà. On peut rire avec d'autres tournures, mais sans les noms, quoi. Voilà.
Et puis, il y a aussi le zouglou hein, qui est aussi
voilà.
De rire et en même temps, souvent, de faire passer un certain nombre de messages politiques et sociaux.
Quand on finit de chanter en zouglou, on reste à la maison pendant au moins deux mois. On sait que si on a Djafoul, bon, pendant deux mois, on ne voit pas, il a quitté le pays. Au bout du troisième mois, il peut venir. Voilà, on a eu le temps de digérer, quoi. Voilà.
Non, c'est vrai, ici, en Afrique, on remarque que la liberté d'expression, elle est beaucoup plus large. Que par exemple en France. En France, il y a des.
Les humoristes africains sont plus libres que les humoristes
français. Oui, on a beaucoup plus de liberté ici. On peut rire de tout. En France, par exemple, le conflit au Proche-Orient, c'est quelque chose.
Il faut faire attention. Ici, mais il y a quand même des humoristes ici, qui en parlent. Jérémy Ferrari, vous-même,
oui.
Vous y allez quand même.
Ben voilà,
très, très fort
c'est
ce
des exceptions.
Moi, j'estime très dangereux.
Parce que moi je pense que les humoristes français ont la liberté d'expression qu'ils veulent et je crois que
chacun se crée sa propre liberté.
Moi ce que je pense c'est que de tout temps quand j'entends, c'est un truc que je dis souvent parce que ça m'énerve d'entendre, il y a 30 ans on pouvait faire des trucs qu'on peut plus faire, c'est pas vrai. Je veux dire Coluche
était
censuré.
On n'est pas plus politiquement correct aujourd'hui qu'avant.
Coluche il s'est fait renvoyer de RMC, de Europe 1. Renaud avait des chansons comme Hexagone qui étaient censurées à la radio, donc c'est pas vrai. La vérité c'est que en fait, tous ces humoristes qui prônent le fait qu'ils n'auraient pas la liberté d'expression suffisante et nécessaire pour pouvoir parler, ça serait bien qu'ils nous donnent des exemples de ce qu'ils auraient voulu dire de si dingue qu'on leur a empêché de dire et surtout sur quel média. Parce que s'ils sont en train d'expliquer ça dans un média avec lequel ils ont un contrat, c'est pas une censure, c'est un contrat qu'ils respectent. Donc, moi en tout cas, mes spectacles passent à la télévision. J'avais un spectacle sur la religion, j'amenais la Bible, le Coran et la Torah sur scène. Là, c'est un spectacle sur la guerre qui est passé il y a 3 semaines. J'évoque le conflit israélo-palestinien pendant 15 minutes, avec peut-être seulement 5 minutes de vanne, 10 minutes de manière très sérieuse et très frontale. Ainsi que l'ensemble des sujets. Sur France 2, j'ai fait des sketchs absolument sur tout.
Oui.
Mais parce qu'ils savent que c'est soit tu ne me relis pas, soit je ne viens pas.
Oui. Mais est-ce qu'il y a des limites que vous vous fixez?
La seule limite, mais après c'est toujours la même chose. Je vais répéter la même phrase. La seule limite, c'est d'être drôle.
C'est drôle.
Ce que je veux dire, c'est que je crois que la limite, c'est de faire les choses avec du contenu et de pas les faire gratuitement. C'est pour ça que j'ai des spectacles très documentés, parce que sinon tu viens donner ton avis, tu viens pas donner un fait. Alors, tu donnes ton avis, il faut le donner à table avec ta famille, tout ça. Mais je trouve que si t'as une responsabilité à avoir devant les gens, c'est bien celle de rester objectif.
Alors en Côte d'Ivoire, on en parlait tout à l'heure, et il y a le zouglou, hein. Et comme quand on pense Zouglou, on pense en particulier au groupe Magic System, et évidemment son leader Assalfo est d'ailleurs le parrain de ce 4e Festival du Rire. Et à la sortie du spectacle hier soir, il était tout sourire.
Mais je suis là d'abord en tant qu'artiste, et puis tout ce qui peut créer un pont culturel entre l'Afrique et l'Europe est toujours le bienvenu et je crois mérite un soutien. C'est pour ça que j'étais là ce soir. Mais aujourd'hui, le rire, moi j'ai commencé ma carrière avec une chanson de dérision qui m'a mené loin. Le rire brise les barrières. Le rire permet de casser tous les préjugés. À travers le rire, on peut tout dire, on peut tout faire Et c'est, voilà, en un mot, le rire, il est pacifique. Et je crois que partout il y a le rire, il y a le bonheur. La preuve en est que là, on sort de la salle, tout le monde est content, tout le monde, voilà, le rire apaise. À travers ce spectacle, on a vu la transversalité qui pouvait exister entre ces deux cultures différentes. On a vu un metteur en scène français qui a su inclure l'humour africain dans ce qu'il a pu. Et c'était très beau à voir, c'est pas des choses qu'on voit souvent. C'était un public mixte et chacun en a tiré son compte, chacun en a eu pour son compte. Les Européens se retrouvaient, les Africains se retrouvaient parce que il y avait cette transversalité-là qui montrait comment l'humour africain peut aller à la rencontre de l'humour européen. L'humour fédère, la musique fédère, et les deux ensemble, je crois que c'est quelque chose qui parle d'unité, de fraternité, de paix, de cohésion. Et ma présence ce soir n'est pas fortuite, c'est parce que j'avais voulu marquer ce pas-là pour dire que la musique et l'humour ont en commun de rassembler, ont en commun de brasser. Mais avec ce que vit le monde aujourd'hui, je crois que le rire est indispensable. Nous vivons tellement de choses alarmantes, nous sommes toujours dans la dépression, on parle de guerre, on parle de terrorisme. Et si on a un petit brin d'humour qui peut arriver, je crois qu'il faut en profiter au maximum. Donc ce soir, c'est encore ça, c'est le rire apprenez l'amour.
Maman, pourquoi est-ce que vous avez choisi Assalfo comme parrain cette année?
Bah, il a tout dit. Hein. Assalfo, voilà, son interview dit tout, dit pourquoi je l'ai choisi. C'est quelqu'un de très brillant, de très talentueux, qui réfléchit à ce qu'il fait et à ce qu'il dit. Et là, son interview, il n'y a rien à rajouter. Quoi.
C'est hyper Jean chouette.
Ouais. Merci. L'argent nous dit Caboret des Zinzins, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une bonne raison, ça, peut-être, Joël?
Oui.
Il a failli vous lui ajouter quelque chose.
Oh non, c'est bon. Il a dit ce que je pensais.
Alors, justement, quand il a parlé d'une sorte de rire, je ne sais pas si vous allez accepter le mot que je vais employer, mais une forme de rire thérapeutique, il y a aussi cette dimension-là dans votre talent artistique?
Oui. Le rire, il est d'abord thérapeutique. Parce que. Après qu'on ait ri, on se sent bien. Raison pour laquelle on nous demande de rire et de faire rire au quotidien. Voilà, moi, ma drogue, c'est le rire.
En fait, même les spectateurs, ils doivent payer deux fois.
Je te jure.
À l'entrée, puis à la sortie.
Parce que normalement, ils viennent, ils payent une fiche de consultation.
Ils rient, puis ils payent.
Et puis voilà, à la sortie, quand ils ont fini, voilà. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Moi, c'est grâce au rire que j'ai pu accepter mes mauvaises notes à l'école, quoi. Alors, on dit Joël, 2 sur 20, je ris.
Mais est-ce qu'on peut dire que l'humour est plus constructif que l'engagement politique? Parce qu'on parle quand même beaucoup de politique, pas forcément d'un point de vue frontal, mais entre les lignes. Maman.
Oui, la politique est très utile. Aujourd'hui, la tendance est de dévaloriser la politique, de dénigrer les hommes politiques, alors qu'on n'en a pas besoin. Nous, les humoristes et les hommes politiques, on ne fait pas le même métier. On n'a pas la même utilité dans la société.
Oui, le petit coup de griffe à Paul Biya en début de spectacle.
Oui,
même.
C'est normal, il le mérite. Depuis 35 ans, tu es au pouvoir, ça va, faut partir. Donc, il n'est pas le seul. Il y a président fondateur qui est là. C'est bien pour ça que le Gondwana, ça va bientôt faire 10 ans que je le fais. Et ça m'attriste que...
Ah, ça va falloir partir aussi.
Mais
voilà. Oui, ça commence à faire long.
Je demande au peuple de me libérer.
Ok.
Les humoristes, on a la même audience, mais les politiques ont leur rôle. Il faut que nous expliquions aux gens qu'on n'est pas là pour prendre la place des politiques. Nous sommes là pour expliquer leur action, pour la passer au crible. Mais notre ambition, ce n'est pas de prendre la place des politiques.
Ça veut dire que l'humour est quand même un métier sérieux.
Sérieux.
On rit.
Sérieux. Oui, on gagne beaucoup d'argent avec ça.
Oui, Jérémy peut en témoigner. Jérémy, ça.
Beaucoup d'argent.
Ouais. Je vais te faire écouter. Donc, toi, okay.
Donc,
tu
vas-y, je suis à ta disposition.
On pense encore à toi, Gondwana. Dis-nous ce que t'as Va arrêter, va arrêter, va arrêter la musique là. Donc Boana, tu dis là, ça veut dire quoi? Boana, tu as dit là, ça veut dire quoi?
C'est un restaurant.
Boana, tu as dit là, ça veut dire quoi?
C'est un restaurant. T'as jamais entendu les gens dire, ah, on irait bien manger au Boana?
Attends, Boana là. Au Boana, hein, moi dans mon village, dans ma langue maternelle, la Boana, ça veut dire chef blanc. Ça veut dire chef blanc.
Oui, parce que les chefs en cuisine, ils sont habillés en blanc. C'est peut-être un mec de ton village qui a ouvert le resto, j'en sais rien, moi.
Jérémy Ferrari et Joël sur la scène de l'Institut français, ici à Abidjan, autour du temps béni des colonies de Michel Sardou en 1976. Ça ne nous rajeunit pas. Alors racontez-nous, Joël, comment est-ce qu'il est né, ce sketch? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de partir de cette chanson-là?
J'ai été façonné par Jérémy. Hein.
Oui, en fait, le truc, c'est que c'était un peu notre idée avec Maman au départ. On parlait un matin, on était à Paris tous les deux avec Maman, et puis un matin on parlait de Michel Sardou et des textes qui peuvent parfois être d'une ambiguïté un peu gênante, sauf celui-là, hein, celui-là il n'y a pas d'ambiguïté
non.
Du tout, mais bon après c'est pareil, on ne sait pas trop, parce qu'il y a des moments où il dit qu'il faisait une caricature, d'autres moments il ne répond pas parce qu'il aime bien jouer le mot, donc on ne sait pas trop, mais en tout cas, Maman me dit, mais tu connais cette chanson justement, et puis il me l'écoute, et moi j'étais juste par terre de rire. Et j'ai dit, ce qui serait vraiment vraiment chouette, c'est que je chante ça avec un des gars. Et puis Maman, avec Joël, on se connaît pas encore depuis très longtemps. Et Maman m'avait déjà parlé de Joël et il m'a dit, putain, s'il y a quelqu'un avec qui tu peux le faire, c'est Joël, parce que il chante très bien et plus que très bien. Ouais, et surtout, il a ce recul et cet humour et le jeu nécessaire pour pouvoir faire des ruptures très intéressantes. C'est-à-dire que si lui, il est gêné pendant que je le fais, ça peut pas fonctionner. Donc il faut quelqu'un qui est quand même solide. Parce que t'as la scène quand même, on est donc il y a quand même moi, un blanc avec Joël, et je lui demande de chanter avec moi le temps béni des colonies.
Oui.
Ça peut susciter une
certaine gêne,
à un moment donné, mais pas si nous deux ça nous amuse. Donc il fallait quand même quelqu'un de costaud, et donc on a rencontré Joël. Je lui ai expliqué mon idée, mais en laissant très libre, parce que c'est ça aussi faire de la mise en scène, c'est pas dire au mec tu fais ça, tu fais ça, tu fais pas ça. C'est on se met d'abord sur une ligne, sur une trame. Et si ça l'avait pas fait marrer, on aurait fait autre chose. Donc, on essaie de trouver quelque chose. Et d'ailleurs, on a beaucoup rajouté de choses parce que ça l'a amusé et il a fait plein de suggestions. Tout le truc du restaurant, etc., on l'a trouvé après parce que en le faisant, ça nous faisait rire et donc le texte s'étoffe.
Mais alors, Joël, quel genre de metteur en scène est Jérémy Ferrari? Comment est-ce qu'il a travaillé avec vous?
Sa mise en scène est libre. Hein. C'est-à-dire qu'il ne nous contraint pas à faire quelque chose. Voilà, il nous présente et puis ensemble on essaie d'évaluer, mais c'est en général c'est comme on dit, c'est du tout cuit. Donc on a juste qu'à rajouter un petit cube d'assaisonnement et puis voilà.
Parce que tu peux pas faire jouer un humoriste à quelque chose auquel il ne croit pas. J'avais ça sur une demande qu'en rire où j'écrivais pour beaucoup d'autres humoristes et j'ai remarqué ça. C'est-à-dire que tu peux être convaincu que ta vanne elle est meilleure que celle que le mec a trouvée. Peut-être même c'est vrai, peut-être fondamentalement, factuellement, ta vanne est meilleure. Mais si lui, il n'y croit pas, sa vanne sera plus drôle parce qu'il y croira. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien d'imposer à un humoriste de faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire parce que ça se ressent toujours.
Joël, vous parlez souvent de religion dans vos spectacles. Pourquoi est-ce que vous donnez à ce thème-là une part si importante?
Parce que dans la religion, il y a un grand tout. Il y a un grand tout, il y a nous, il y a les autres. Voilà, la religion, c'est savoir qui on est, apprendre beaucoup de choses sur l'autre. Et puis, je pense que comme la religion, elle est surtout en Afrique, elle est omniprésente. Hein. Donc, parler de religion, c'est nous parler de nous. Et puis, derrière aussi, dire attention. C'est pas parce qu'on dit religion qu'on va marcher un peu comme des zombies. Il faut de temps en temps descendre un peu de notre nuage pour comprendre que autour de nous, la première chose dans la religion, c'est accepter l'autre. Donc moi, je suis de religion chrétienne. J'accepte d'abord le musulman, j'accepte le bouddhiste, et puis on parlera d'une et une même chose. Voilà, c'est Dieu. Voilà. Ouais. Ça dure pas. Si c'est avec les autres autour d'une bière, voilà. C'est on parle d'une chose.
Oui,
voilà,
donc ça veut dire que vous êtes un humoriste, mais qui défend aussi un certain nombre de valeurs.
Oui, oui.
Un certain nombre de valeurs morales.
Effectivement.
Est-ce que vous diriez que l'humour peut aussi servir justement de ferment social, de presque de guide pour le spectateur?
Avec l'humour, on accepte, parce que l'humour c'est ça. Faire accepter. Voilà. Parce qu'on ne fait pas de l'humour pour dire non, 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 non. Parce que si on fait de l'autodérision, c'est pour qu'on se rende effectivement compte de ce qui est et comment l'aborder d'une autre façon. Voilà, c'est avec c'est de cette façon-là que moi je fais mon humour, parce que très très souvent c'est sur les sujets qui fâchent qu'il y a de beaux textes.
Et vous êtes d'accord, les zinzins, l'humour c'est aussi une façon de faire un pas vers l'autre, un pas vers celui qui est différent?
Ben oui. Oui, c'est ça.
Oui, beaucoup même.
L'année dernière, même le gouverneur du district d'Abidjan nous a reçu et il a dit, vous savez pas jusqu'à quel point vous nous conseillez. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un grand spectacle au niveau d'Abidjan ici, vous voyez, les politiques sont beaucoup intéressés. Donc ça veut dire qu'à travers ce que nous disons, les gars tirent des leçons tout de même. Bon, même s'ils les appliquent pas quand même, hein, mais ils viennent, ils écoutent.
Et là, justement, c'est pour ça l'une des raisons de vie de Abidjan, capitale du rire, et d'autres occasions pour les humoristes de s'exprimer sur scène dans un cadre purement artistique. Sans parler d'hommes politiques, le danger aujourd'hui, il est là depuis plusieurs années, c'est que à travers l'humour, les hommes politiques, parce que les humoristes en Afrique aujourd'hui, ils s'expriment où ? Souvent dans des meetings politiques. En avant-première, en attendant que l'homme politique arrive, donc il y parle. Et souvent, les hommes politiques par derrière se servent des humoristes pour faire véhiculer des messages et puis pour se faire élire. Et donc, plus on aura des occasions comme le festival, des occasions purement artistiques, pas politiques, de jouer, plus les humoristes seront indépendants et plus leurs propos seront puissants et impartiaux. Mobile, qual piuma al vento, muta d'accento, e il pensiero, sempre un amabile, leggiadro fisso, in un piatto riso, e menzognero, l'arma immobile, qual piuma al vento, muta d'accento, e il pensiero.
L'un des plus célèbres airs de Rigoletto de Verdi, vous avez reconnu le ténor, Jérémy Ferrari?
Alors moi je savais, Maman m'avait dit qu'il chantait extrêmement bien.
C'est Joël.
Oui. Pardon. Oui,
oui c'est Joël.
En fait, je crois que vous l'avez dit. Oui, c'est Joël. Il m'avait dit que Joël chantait extrêmement bien. Après, je savais pas. J'avais pas compris que c'était de l'opéra, quoi. Donc, c'est d'autant plus impressionnant parce que on connaît la difficulté. Puis, même en fait, sans parler de difficulté, c'est que c'est impressionnant un chanteur d'opéra que vous avez vraiment à proximité. C'est très impressionnant parce que la puissance qu'on a dans un écran, dans un écran qu'on voyait en télévision ou à la radio, c'est pas la même que quand vous êtes à côté, parce que vous sentez la puissance de la voix. C'est vraiment très très impressionnant.
Vous avez d'ailleurs monté un groupe, Joël, qui s'appelait Bel Canto.
Oui, Bel Canto.
Précisément, quelle place la musique et le chant a dans un spectacle d'humour comme le vôtre?
Elle a une place de choix, parce que avec la musique on peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on commence en musique et on termine toujours en musique. Donc la musique c'est le là de la vie, parce que c'est là. La musique elle est omniprésente. Donc moi dans tous mes spectacles, c'est bien de mettre la musique, parce que très souvent aussi ça me permet de souffler.
Mais alors certains ont comparé votre voix à celle de Baïs Pinto, c'est pas mal, ça fait partie de vos références?
Oui, Baïs Pinto m'a beaucoup...
Faut le prouver là.
Baïs Pinto?
Oui. Ah bah oui, un petit a cappella.
Taxi, sounion, nyamamoui, nyamama, na meyari bemoa, Taxi, sounion, nyamamoui, nyamama, na meyari bemoa, Encaillera morena andri bebe como taxi sueño. Ah, tu voulais rajouter quelque chose?
Voilà, c'est absolument impressionnant. Voilà, c'était Alain des Zinzins qui a fait une petite improvisation. Mais c'est vrai que quand on vous écoute chanter, Joël, on se dit mais c'est extraordinaire, quoi. Vous avez vraiment un organe impressionnant.
Un vrai chanteur, c'est quelqu'un qui peut comme ça, qui va pas vous dire ah mais non, mais là je suis assis à froid, je vais me faire mal à la voix.
On en a
reçu assez, il vous chante tout de suite quelque chose. C'est assez chouette.
Mais on se dit pourquoi ne pas tenter une carrière de chanteur.
Pourquoi ne pas tenter une carrière de chanteur ? L'avenir me dira. L'avenir me dira. Pour l'instant, je m'éclate beaucoup en humour. Sinon, chanteur, je suis. Je suis chanteur. Mais, et puis bon, il y a l'argent dans l'humour actuellement. Surtout en Afrique, là. J'entends, on est beaucoup, mais ici, là.
On en revient toujours à l'argent, quand même. Ils sont si vénaux que ça, Maman, votre bande d'humoristes.
C'est ça.
Oui. Mais ils sont à combien, alors, les cachets, pendant ce festival?
Là.
Je suis obligé de vous poser la question.
Là, je répondrai qu'en présence de mon avocat. Voilà.
En haut à gauche, c'est nom et prénom. Alors, un, deux.
Pardon ?
Nom et prénom en haut.
Ah, Samandoulougou Tanarda.
Oui, attends, tu peux répéter le.
Samandoulougou Tanarda.
Juste la fin ?
Samandoulougou Tanarda Tenkungulu Totsun Tiyalambon Tikunguga Balambatiam Kulugo Tarmugulu Rappelbo Nasarnu Wolgo Oua Mikisame. Écrivez.
Oui, je crois avoir retenu le.
Respecte à gauche là.
Bon, j'ai peut-être oublié un haut, hein, parce que.
Non, il n'y a pas haut dans mon nom là.
Ok, et prénom ?
Jean.
Écrivez.
Adresse, en haut à droite.
L'adresse.
Adresse.
Bon, nous on habite au Grand Carrefour de Samaké, hein. Voilà, Grand Carrefour de Samaké. Premier Carrefour, c'est pas là-bas. Deuxième Carrefour non plus. Troisième Carrefour, voilà. Il y a une dame qui est là-bas, elle est assise, elle est grosse, elle est courte et puis elle est grande. Voilà, elle vend des beignets. Vous la dépassez juste après la dame. Vous allez voir sur l'autoroute, il y a un bois que la pluie a fait tomber. C'est cassé, c'est tombé. Ouais. Vous prenez la voie tout droit, vous tournez à gauche. Dès que vous tournez à gauche, il y a un vieux camion qui est garé là. Il y a longtemps, le vieux camion là. Très très longtemps. Oui, il y a des enfants même qui jouent là. Mais ne vous rassez pas auprès des enfants là. Ça là, il va vous envoyer en brousse, hein. Voilà, juste après ça, vous continuez votre chemin. Chemin faisant, vous allez voir le carrefour engrais, il y a une station qui est là, station, et le foyer des jeunes. Juste après le foyer des jeunes, il y a le garage Fofana, il y a le cimetière qui est là. Cimetière et carrefour aux forêts, vous allez voir des jeunes qui jouent au damier là, c'est là-bas. c'est ça. Voilà, écrivez. Voilà, écrivez.
Et... Bon, attends, je vais mieux définir l'adresse. Oui. Les jeunes qui jouent au damier, là,
ouais.
C'est le matin qu'ils jouent ou bien c'est l'après-midi ?
Toute la journée. Oui, toute la journée.
Et c'est les jeunes où il y a un gars qui a toujours un t-shirt rouge, là.
Voilà.
Exactement. Qui est devenu un peu marron parce que c'est
voilà.
Ça.
Voilà.
Ouais, ils ne se lavent pas, c'est ça. D'accord. Et puis, on continue. C'est là où il y a le caniveau qui est toujours ouvert. Ça sent mauvais.
Voilà. Merci. C'est là-bas.
Connais le quartier. À côté de la maison de la vieille dame qui est morte et puis tout le quartier pleurait, là.
C'est ça.
Ok, mais l'adresse BP 1422.
C'est ça.
Jérémy Ferrari et les zinzins dans VMDN sur RFI. C'était hier soir, hein, sur la scène de l'Institut français ici à Abidjan. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Maman, mais pour moi, ce moment-là du spectacle, c'était peut-être un excellent exemple de ce qu'on pourrait appeler l'humour panafricain. Ça marche dans tous les pays, ça.
Oui, panafricain, panafranco-africain, puisque c'est tout un mélange. C'est exactement l'image de ce pont-là. Et voilà, avec Jérémy, les zinzins, moi, et le public qui est mélangé, on était mélangé sur scène, c'est l'image de ce spectacle.
Et c'est pas justement Jérémy, que le vrai. Côté, parce que par exemple, dans ce moment-là, juste après ce moment-là, il y a moi, donc le français, qui va leur expliquer, parce qu'ils doivent écrire, dans ce contexte-là, en fait, ils doivent écrire au président de la République française. Et juste après, moi, je vais leur donner les codes et de comment réussir une lettre quand on s'adresse à un haut fonctionnaire de l'État.
Oui.
Et là, c'est moi qui vais être ridicule en expliquant toutes les étapes, toutes les règles à respecter, la langue française, la bienséance, etc., etc., les codes administratifs, machin. Donc, c'est plutôt ça, le panafricain. C'est justement d'avoir, à un moment donné, moi qui vais me moquer de la longueur de leur nom ou de l'adresse parce que c'est incompréhensible, etc. Et de l'autre côté, on va se moquer aussi de la France dans son côté un peu trop précieux, un peu trop complexe, un peu trop codifié, un peu trop voilà. Donc c'est d'arriver vraiment à essayer de répartir les deux trucs. Il y en a pas un qui a le dessus sur l'autre. C'est toujours on transverse les énergies.
Et à l'intérieur du duo des zinzins, est-ce qu'il y en a un qui a le dessus sur l'autre, pour reprendre l'expression de Jérôme Ferrari à Cabaret?
Jérémy, parce que Cabaret, Jérôme, c'est celui qui a eu le concours.
Oui, Jérémy Ferrari. Oui, mais je vous souhaite la même chose.
Ah,
Jérémy, on ne sait jamais. On ne sait jamais.
Finir l'Académie française.
C'est vrai que les duos, il y en a plein, hein, évidemment, dans le monde de l'humour. Comment ça se passe? Comment ça se vit un duo? Parce qu'il y a énormément de duos qui ont très très bien marché, et puis ensuite des duos qui se sont séparés. Je ne veux pas vous porter la poisse, évidemment, mais comment on gère justement ces deux égos, ces deux talents réunis au sein d'une même unité artistique?
Cette fois-ci, c'est moi qui vais prendre la parole.
Allez-y. Ah, donc c'est peut-être vous qui prenez le dessus, alors.
Non, c'est pas ce que je veux dire. D'abord, il faut dire que mon frère et moi, il y a une forte alliance entre lui et moi. Voilà, il y a une alliance ethnique, je veux dire, voilà, entre Kabore et moi. Donc du coup, ce sera vraiment compliqué qu'il y ait une séparation, quoi. Voilà, cette séparation-là, ça va pas arriver. Voilà.
Alors, expliquez-nous. Décrivez-nous le personnage de Cabaret, et ensuite je vais demander à Cabaret de faire la même chose du personnage d'Alain.
Le personnage de Cabaret?
Oui, qui est Cabaret pour vous, Alain?
Cabaret, c'est lui-même. Hein. Décrire Cabaret, ce sera vraiment compliqué pour moi.
Je vous dis, c'est malhonnête. Ouais.
Cabaret?
Je vous dis la vérité.
Maman a quelques malhonnête. Idées, visiblement.
Je vous dis la vérité.
Cabaret sur Alain.
Dis ce que tu penses.
Ben, Alain, c'est... Bon, voilà, on se complète, c'est mon binôme, comme on dit, c'est mon binôme. On se complète, on écrit les textes, on travaille ensemble et bien sûr avec l'œil des grands maîtres qui nous prodiguent des conseils, qui nous orientent, et voilà.
C'est le résultat qui est là. Mais c'est ce que je me permets de rebondir, parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est toujours très compliqué d'intellectualiser l'humour. C'est pour ça qu'on a autant de difficultés à vous répondre. Il sait même pas vous écrire son personnage. Il vous a tout dit quand il a dit, je sais pas, c'est moi. Parce que c'est ça, c'est comme moi quand on me demande. Alors, quand vous avez choisi de pratiquer l'humour noir, comme si je m'étais levé un matin, on m'avait dit, alors voilà, on a ça à vous proposer, ça à vous proposer, vous avez l'humour absurde, l'humour noir, l'humour... C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des choses qui viennent tellement spontanément que c'est très dur après de, et je me rappelle que maintenant j'ai dû réfléchir à ce que j'étais parce que dans les interviews, on vous pose des questions.
Ah oui, les journalistes, ça peut servir à quelque chose.
Oui, bien sûr. Et après avoir 50 fois ne pas su répondre à la question, il a fallu quand même que je me penche dessus. Et du coup, ça m'a permis d'évoluer, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est difficile, quand on démarre, c'est difficile de répondre à ça parce que c'est tellement instinctif, c'est tellement spontané qu'on n'a pas eu le temps d'intellectualiser, de réfléchir à vraiment d'où ça venait.
En tout cas, les Zinzins, vous êtes les heureux lauréats du prix RFI Talent du Rire 2018 qui vous sera remis samedi au Palais de la Culture ici à Abidjan. Parlez-nous un petit peu de ce prix, justement, Maman. Il y a des critères? Comment est-ce que le prix est décerné?
Le critère, c'est être drôle. Le prix RFI Talent du Rire est né en même temps que le festival Abidjan Capitale du Rire. Et c'est juste sur toute l'Afrique que les gens, et même l'océan Indien, que les gens nous envoient 3 vidéos, des textes, donc des liens. Et aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire ce prix, je sais pas, il y a 10, 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, de n'importe quel village du Gondwana, quelqu'un peut prendre un smartphone, se filmer, raconter un sketch, le mettre sur YouTube, nous envoyer le lien. Et c'est comme ça qu'on découvre des gens du Tchad, de Centrafrique, du Niger, du Mali. Et ce prix est ouvert à tout le monde. On commence la campagne au mois de mai sur les antennes de RFI.
Je vais me présenter cette année. Je vais me présenter cette année.
Tu vas te présenter?
Ouais. D'accord. Mais je te ferai une vidéo du Ghana.
Oui, mais on partage le prix. Hein, et d'ailleurs le prix, le problème a déjà commencé avec les Zinzins parce qu'ils me disent, mais il y a un trophée là, nous on fait comment?
Ah oui, c'est vrai, il va falloir réfléchir à ça.
Ben oui.
Je mène chez Lucas.
On n'y a pas pensé.
Oui.
C'est vrai.
Il y a une copie pour lui.
Oui, une copie.
La question se pose.
Voilà, il veut faire une photocopie pour
mais là,
pour
Alain. Sur le trophée, là, ils ont cru quoi? Les Zinzins ou bien c'est.
Les Zinzins.
C'est les Zinzins.
Les Zinzins de l'art. Quand tu prends l'art, lui, il prend Zinzin.
On aura donc la remise du prix donc ce samedi soir au Palais de la Culture d'Abidjan. L'objectif, Maman, pour ces nouveaux talents que vous mettez en valeur à travers le prix et également à travers ce festival, c'est quoi? C'est de conquérir les scènes africaines ou c'est de conquérir les scènes françaises et peut-être même européennes?
Déjà, les scènes africaines. On est 400 millions d'Africains francophones, donc on est plus nombreux que les Américains. La France est 70 millions, donc juste le marché africain est énorme. RFI c'est 50 millions d'auditeurs, donc juste ça nous suffit. Mais il y a le prix RFI Talent du Rire, il y a Abidjan Capitale du Rire, il y a le Parlement du Rire qui est une émission hebdomadaire. Donc on est en train de créer cet écosystème de l'humour, parce que faut voir l'humour. Depuis tout à l'heure en blaguant, on parle d'argent, mais c'est une économie. et il faut que les artistes en vivent. Il faut qu'on montre aux Africains que c'est un métier qui se prépare, qui se travaille tous les jours et qui mérite rétribution après.
Oui, et qui mérite peut-être aussi un succès européen, Jérémy Ferrari, parce que depuis quelques années, les artistes africains font une vraie percée, hein, en particulier sur la scène parisienne.
Oui, après c'est toujours la même chose, c'est que moi je pense que si un humoriste apporte quelque chose dans un autre pays, ça fonctionnera. Vous savez, on estime qu'il y a une cinquantaine d'humoristes dans le monde qui ont vraiment un très très gros succès en salle. Oui. C'est-à-dire qu'en France, je pense qu'il y a 15 ou 20 humoristes seulement qui remplissent réellement les salles. Il y a plein de gens en télévision, en radio, mais c'est pas forcément les gens qui remplissent les salles. Ça arrive que ce soit les deux, mais pas toujours. Aux États-Unis, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup. Il y a des pays où il n'y a pas d'humoristes.
Il y a Donald Trump.
Il y a Donald Trump qui est très drôle, qui a raflé. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les places d'humoristes, quel que soit le pays, sont chères. Et c'est l'un des arts les plus pratiqués parce qu'on a l'impression que c'est très simple. Et au final, c'est l'un des arts où il y a le moins de succès. Mais en revanche, quand le succès est là, il est très important. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez dans un pays 10 ou 15 seulement humoristes qui vont remplir vraiment les salles, ça veut dire que vous répondez à une demande ou que vous avez créé une demande en créant un style totalement différent. Donc, si vous arrivez dans un pays avec un humour qui est différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir et qui répond à quelque chose, alors vous pouvez trouver votre place. Et je pense que cette règle-là, elle est universelle, quel que soit le sens dans lequel on se déplace, et quelle que soit la langue, et quel que soit le pays et la culture.
Et surtout, moi, mon ambition là-dessus, c'est inverser le flux. C'est ne plus parler d'Europe, ne plus parler, faire comme les footballeurs, comme les musiciens Youssou N'Dour, Assalfou, qui ont eu leur succès grâce à l'Europe. Nous, on veut que les humoristes vivent et travaillent en Afrique. Le marché africain peut se suffire à lui-même. Et de temps en temps, aller en Europe, faire une tournée, mais revenir toujours. Parce qu'un humoriste ne peut pas s'installer en France ou à Washington et prétendre faire des blagues sur le quotidien des gens d'Adjamé ou de Poto-Poto au Congo. Donc l'ambition, c'est vraiment que nous, humoristes africains, vivons et travaillons en Afrique.
Merci beaucoup à tous les quatre, Mamane, Jérémy Ferrari, Joël et les Zinzins. Vous êtes même cinq d'ailleurs, puisque les Zinzins y comptent pour deux, même s'il y aura un seul prix qui sera donc remis, je le rappelle, ce samedi soir au Palais de la Culture d'Abidjan. Mais avant samedi, il y a ce vendredi soir, hein, oui, toujours au Palais de la Culture, vous êtes invité à un anniversaire, je crois, Marianne.
Incroyable anniversaire de Michel Gou. Donc juste le titre veut dire, voilà, c'est incroyable.
Voilà, l'anniversaire de Michel Gou, on en parlera d'ailleurs dans l'émission de lundi, avec évidemment Michel Gou, avec également Digbe Cravate, avec Le Magnifique et Willy Dumbo. On évoquera aussi le Parlement du Rire, que vous connaissez plus que bien, hein, évidemment tous. Le rôle de la télévision aussi, hein, très important dans l'émergence de cet humour en Afrique qu'on évoquait durant cette émission. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve donc lundi et vous m'en direz des nouvelles.
Pensier, pensier.